divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la Grande Loge de France. Bonjour à toutes et bonjour à tous, au micro Perry Willet. En ce mois de juillet, peut-être synonyme de vacances pour certains et de voyage pour d'autres, nous avons pensé utile de parler de la Grande Chancellerie. C'est pourquoi j'ai invité Jean-Pascal Anglert. Bonjour Jean-Pascal.
Bonjour Perry.
Vous êtes donc le grand chancelier de la Grande Loge de France, voilà un titre un peu ronflant. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est qu'un grand chancelier à la Grande Loge de France aujourd'hui en 2019?
Alors le grand chancelier de la Grande Loge de France est le ministre des Affaires étrangères de la Grande Loge de France qui est chargé sous le contrôle du grand maître de tout ce qui concerne les relations avec les obédiences étrangères. Son rôle est de proposer les mesures, toutes les mesures à établir pour entretenir ces relations selon la politique définie par le grand maître.
Alors on dit que la Grande Loge de France est un ordre initiatique traditionnel et universel. L'universalité, il faut constater qu'elle n'est peut-être pas aussi globale que l'on veut bien le croire, puisque dans certains pays, la franc-maçonnerie n'est pas tolérée. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire où et comment la Grande Loge de France est présente à l'étranger?
Alors, il existe deux types de présence de la Grande Loge de France, au-delà de ce que vous avez mentionné, qui est effectivement un fait. La présence de la Grande Loge de France se fait autour de deux axes particuliers, à savoir la première axe, ce sont les relations avec les obédiences étrangères, amies, avec lesquelles nous avons signé des traités d'amitié, qui sont répartis dans différents pays et sur différents continents. Et puis la deuxième partie de la présence de la Grande Loge de France dans les pays où nous n'avons aucune obédience partenaire, c'est d'établir des loges de la Grande Loge de France directement. C'est le cas au Canada, en Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge, au Sénégal, en République démocratique du Congo, au Congo, enfin, tout un tas d'endroits où nous avons ouvert des loges de la Grande Loge de France.
Alors vous avez prononcé le mot de traité d'amitié. Qu'est-ce que ça veut dire, un traité d'amitié? Les obédiences sont amies. Alors, concrètement, cela veut dire quoi?
Le traité d'amitié, c'est en fait un accord qui est passé entre les obédiences. Il en existe deux types de traités. Le traité d'amitié et de reconnaissance, qui est le traité classique, qui établit le fait que les deux obédiences constatent un certain nombre de fonctionnements identiques et établissent des relations pérennes qui permettent à ses membres de venir échanger, soit en France pour les étrangers, soit pour les membres de la Grande Loge de France, de venir à l'étranger au sein de ces obédiences pour suivre leur parcours initiatique.
Donc nous pouvons aller dans ces pays, dans ces obédiences, et réciproquement, les frères de ces pays peuvent venir nous visiter.
Absolument, absolument. C'est l'essence même de ces traités qui définissent les relations qui sont les nôtres, de manière à ce que chacun, dans toute indépendance, l'indépendance de chacune est garantie, sa souveraineté est garantie, puisse permettre aux frères de poursuivre leur chemin chez les uns ou chez les autres en fonction du pays dans lequel ils se sont
expatriés. Alors, je comprends bien du coup le mot amitié, puisque on se visite entre amis, mais vous avez dit traité d'amitié et de reconnaissance. Alors, nous reconnaissons quoi?
Nous reconnaissons leur qualité à travailler la franc-maçonnerie telle qu'elle est pratiquée par la Grande Loge de France avec un certain nombre de critères qui sont la non-mixité, l'invocation du grand architecte de l'univers, les travaux symboliques ouverts sur les trois grandes lumières de la franc-maçonnerie qui sont pour la Grande Loge de France l'équerre, le compas, le volume de la loi sacrée, la Bible en l'occurrence, tous ces critères. Prérequis, tous ces critères qui font que nous reconnaissons la qualité, les mêmes qualités que les nôtres et que nous nous engageons dans ce cas-là dans un processus de relations internationales.
Ce qui veut dire en gros que toutes les loges, les frères qui travaillent dans les loges pratiquent un certain rituel et que ce rituel est le même pour tous, évidemment traduit dans chacune des langues.
Traduit dans chacune des langues. Pour certaines, ils demandent à la Grande Loge de France de leur prêter leur rituel qu'ils vont traduire et parfois adapter en fonction de certaines spécificités du pays. Et puis d'autres ont des rituels qui sont légèrement différents des nôtres, mais qui respectent toujours le standard souvent du rite écossais ancien accepté.
Alors les autres traités, vous avez dit des traités de rite écossais ancien accepté, donc précisément le rite que nous pratiquons. Donc quelle est la différence entre ces traités et les premiers que vous avez cités ?
Alors le deuxième traité repose sur la pratique exclusive du rite écossais ancien accepté. Si le premier traité peut être signé avec des obédiences qui pratiquent le même rite que nous, le rite écossais ancien accepté, elles peuvent également pratiquer d'autres rites. En revanche, celles qui pratiquent exclusivement le rite écossais ancien accepté, ce sont des traités écossais qui garantissent le fonctionnement du rite de son premier au 33e degré dans des structures indépendantes, interdépendantes, qui sont les grandes loges et les juridictions des grades supérieurs.
Alors, donc il y a des traités, mais il n'y a pas de subordination entre ces pays et la Grande Loge de France.
Non.
L'on peut dire finalement qu'il y a peut-être une obédience mère, je ne sais pas si le mot est approprié, mais alors, toutes ces obédiences, tous ces pays sont indépendants, enfin, évidemment ces pays sont indépendants, mais leur relation avec notre obédience à la Grande Loge de France n'est pas de type suggestion.
Non, absolument pas. Même si la terminologie que vous avez employée, à savoir la loge mère, est un peu la manière dont certains ont volonté de nous voir, il faut bien rappeler que les relations que nous avons avec les obédiences amies s'inscrivent dans les principes qui sont les nôtres d'une grande loge de France, indépendante et souveraine, qui ne se veut ni paternaliste, ni donneuse de leçons, bien au contraire. Nous sommes désireux de travailler d'égal à égal avec les obédiences amies, sans pour autant leur donner de leçons, mais sans pour autant accepter d'en recevoir.
Oui.
Donc c'est vraiment une indépendance totale et une souveraineté totale, avec une interdépendance liée au rite que nous pratiquons.
Tout le monde est libre, cependant, et j'ai vu lors de différents convents, au mois de juin dernier, nous avons reçu, je crois, près de 54 délégations.
54 précisément.
De tous les pays. J'ai observé que certains d'entre eux étaient liés dans une confédération internationale. Alors, c'est pas une petite entorse à l'indépendance. De quoi s'agit-il, cette conférence internationale des grandes loges unies ?
Alors, la Confédération internationale des grandes loges unies a pour but de favoriser et de se mettre d'accord pour véhiculer et favoriser le rayonnement du rite qui est le nôtre, le rite écossais ancien accepté. À l'origine, c'est une confédération qui était basée principalement sur le rite écossais ancien accepté, avec l'acceptation d'autres rites de type écossais, comme l'écossais rectifié, puisque la Confédération internationale des Grandes Loges Unies a été créée en juin 2000, par la Grande Loge de France, la Grande Loge nationale de Serbie et la Grande Loge traditionnelle et symbolique opéra, qui, elle, pratique d'autres rites que le rite écossais ancien accepté. Et puis, la dernière Assemblée Générale a voté la transformation de cette confédération en Confédération internationale des Grandes Loges Unies de rite écossais ancien accepté, pour promouvoir et apporter dans tous les pays où la maçonnerie n'est pas présente, le rite écossais ancien accepté avec ses valeurs. C'est une franc-maçonnerie de tradition, initiatique, spirituelle.
Quand vous dites international, c'est vraiment, on peut dire, sur les 5 continents ?
Alors, oui, sur les 5 continents, absolument, puisque parmi les 33 obédiences qui constituent aujourd'hui la Confédération internationale des Grandes Loges Unies, il y en a bien évidemment en Europe, il y en a en Afrique, il y en a en Amérique, il y en a en Asie. Ce sont tous les pays, principalement, qui sont représentés. Et 2 obédiences sont des obédiences observatrices qui viennent d'intégrer, qui viennent de se constituer depuis peu de temps et qui sont mises pendant 1 an à participer aux travaux sans pour autant avoir de droit de vote et intégreront la Confédération définitivement au bout 1 an.
Donc on peut dire que finalement la présence de cette maçonnerie liée à la Grande Loge de France dans les différents continents, quels que soient les régimes en place, c'est porteur d'espoir et de liberté.
Ça reste porteur d'espoir. Certains pays qui nous refusaient l'accès de leurs portes, de leurs locaux, de leurs temples, ont fini par prêter une certaine oreille à ce qu'est la franc-maçonnerie telle que nous la pratiquons à la Grande Loge de France, je le répète, traditionnelle, spiritualiste, humaniste. Et nous avions une loge dans un pays d'Asie pour laquelle il était très difficile de se réunir par rapport aux demandes des autorités, et nous avons finalement, par divers ambassades de la Grande Loge de France, au travers de sa grande chancellerie, réussi à faire valoir que le but de la maçonnerie telle que nous la pratiquons n'est pas de venir s'immiscer dans les principes politiques du pays en question, ni de venir parler de tel ou tel parti qui compose les différents partis ou le parti du pays en question, et ils ont finalement accepté, sous ces conditions-là, de laisser cette loge pratiquer son rite au sein d'un endroit dans le pays.
Donc, je répète, porteur d'espoir dans des pays que l'on nomme pas, mais disons un peu totalitaires, où en tout cas la démocratie n'est pas le maître mot, ou des pays où certaines religions sont prégnantes, ou sont des religions d'État. C'est intéressant de voir que la franc-maçonnerie que l'on pratique et que l'on promeut dans ces différents pays est porteur d'espoir pour les frères qui résident dans ces pays.
Je pense qu'elle est effectivement porteuse d'espoir et que au XXIe siècle, elle répond parfaitement aux différentes attentes à la fois des populations, des peuples en général, mais également de ces peuples dans des pays qui sont, comme vous dites, totalitaires. C'est une manière pour eux de s'ouvrir à autre chose, à un autre mode de pensée, tout en conservant, bien évidemment, et en intégrant leurs traditions. Les traditions du pays. Il n'est pas question de les mettre de côté ou de leur imposer quoi que ce soit, mais bien de travailler ensemble, la main dans la main, d'égal à égal, en leur proposant une méthode de réflexion, de construction personnelle, au travers des mythes et légendes qui sont les nôtres, tout en intégrant les mythes et légendes qui sont les leurs. Et on se rend compte souvent que finalement, ces mythes et légendes sont relativement communs entre ce que la franc-maçonnerie de rite écossais ancienne a accepté peu véhiculer, et les mythes qui sont les mythes fondateurs de ces pays en général. Et c'est d'ailleurs un très grand espoir par rapport à ça, c'est de se voir que finalement, l'universalité, elle est peut-être là, dans la convergence de mythes qui sont peut-être différents pour ce qui concerne les personnages dont elle parle, mais qui finalement disent la même chose et nous racontent la même histoire.
L'un enrichit l'autre et finalement,
absolument,
tous les hommes et femmes sur Terre ont quand même une recherche de vérité, d'absolu, une certaine forme de spiritualité, quel que soit l'environnement géopolitique local.
Totalement. Et peut-être même d'ailleurs dans ces pays où ils ont quelques entraves, je pense que la demande de spiritualité est d'autant plus forte qu'elle leur est refusée au travers d'autres pratiques. Alors il n'est pas question de se substituer, bien évidemment, nous ne sommes pas une religion. La franc-maçonnerie, le rite écossais ancien accepté, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une secte non plus. Mais c'est une possibilité que nous leur offrons et qu'ils n'ont pas, par ailleurs, dans le pays dans lequel ils résident.
Alors, il y a d'autres loges de la Grande Loge de France. Alors là, je dis bien de la Grande Loge de France, dans certains pays. Alors, comment ça s'articule avec les premières obédiences et loges que l'on a évoquées dans cette émission au début ?
La souveraineté que nous établissons au travers des traités spécifie que nous nous interdisons d'aller ouvrir des loges de la Grande Loge de France sur des territoires dans lesquels nous reconnaissons une obédience pour la manière dont elle pratique le rite. Et donc nous nous interdisons. En revanche, dans les pays où nous ne trouvons pas ce vecteur de pratique du rite écossais ancien accepté, il appartient à ce moment-là à la Grande Loge de France de s'implanter elle-même avec des expatriés français, parfois souvent avec des frères qui sont partis dans ces différents pays et qui peuvent nous aider à constituer des loges de la Grande Loge de France. C'est le cas, je vais prendre le cas de Madagascar, où depuis plusieurs dizaines d'années, nous avions des loges de la Grande Loge de France.
Très ancienne pour certains.
Très ancienne pour certaines, plus puisque nous allons fêter le centenaire de la plus ancienne, la loge Imerne, l'année prochaine, au mois de mai 2020. Et puis, une fois qu'elles ont atteint le seuil correct pour travailler en obédience autonome, eh bien, elles se séparent de la Grande Loge de France pour créer et devenir une obédience nouvelle. C'est donc le cas à Madagascar. Et nous les accompagnons à ce moment-là en leur décernant, en leur donnant une patente de rite écossais ancien accepté et avec laquelle nous signons un traité écossais d'amitié.
Une patente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une patente ?
Une patente, c'est un document, comme les lettres de patente que l'on peut présenter à un gouvernement. C'est un document qui établit le droit souverain de la nouvelle obédience à pratiquer le rite écossais ancien accepté patente remise par la Grande Loge de France, qui la détient depuis fort longtemps et depuis quasiment son origine, puisque le rite écossais ancien accepté a été créé au début du 19e siècle, est arrivé en Europe en 1804, avec la création du Suprême Conseil de France, qui est le Suprême Conseil qui travaille avec la Grande Loge de France sur le rite écossais ancien accepté du 1er au 33e degré. Et donc cette patente établit le fait que nous leur reconnaissons, nous leur donnons la possibilité de travailler selon ce rite et d'être totalement reconnus dans le monde entier au travers de la pratique de ce rite par l'établissement de cette patente.
Quelque sorte un label de reconnaissance, de justification de la bonne pratique des rites et rituels que nous avons à la Grande Loge de France.
Absolument, on peut parler d'un label, effectivement, qui atteste que nous avons constaté la régularité des travaux tels que nous les pratiquons à la Grande Loge de France, et que, de ce fait, ils ont la possibilité, et ils ont ce label qui leur dit, qui montre à chacune des obédiences avec lesquelles ils vont par la suite être en contact et être en rapport, dire voilà, nous travaillons selon le rite écossais ancien accepté, tel qu'il est défini et tel qu'il a été pratiqué par la Grande Loge de France depuis son origine.
Merci beaucoup Jean-Pascal. Alors, il me reste à vous donner rendez-vous à notre prochaine émission qui aura lieu au mois d'août, et nous la consacrerons entièrement à la promotion de Point de vue initiatique. Il y a d'ailleurs à l'intérieur un article sur l'universalité de la Grande Loge de France et sa présence dans le monde. Il y a aussi des articles sur les temples de la Grande Loge de France, un article sur francs-maçons et citoyens, pourquoi et pourquoi faire. Et il y a aussi une rubrique qui s'appelle l'ère du temps, une petite pointe d'humour, où on parlera de l'initiation, de la bicyclette et de leurs mérites comparés. Il n'est pas interdit de rire en franc-maçonnerie, nous l'avons déjà dit. Et puis il y aura dans les futurs numéros de Point de vue initiatique une rubrique qui s'appellera, je crois, Orient et Occident.
Absolument.
Où précisément nous donnerons la parole à toutes ces obédiences de par le monde qui expliqueront leur quotidien. Merci à toutes et à tous. Je dois remercier Philippe Mercher à la technique et fidèle Danny Journeau à la réalisation. Bon dimanche à toutes et à tous. Bon voyage à ceux qui le peuvent et rendez-vous au mois d'août.